Chapitre 66. Le bruit soudain de la vengeance. Capucine et Adrien font souvent la sieste après le déjeuner. Leur réveil sonne à l'aube. Ils travaillent de façon acharnée, alors depuis qu'ils se sont lancés dans ce projet un peu fou, ils s'accordent ce repos. Ils se câlinent et somnolent. S'endorment parfois pour un court sommeil. Ils sont synchronisés. Ce temps à eux participe à l'harmonie de leur couple. Ils n'y dérogent que rarement. Après le drame des abeilles, ils se sont retrouvés plus unis encore. Karine est partie rejoindre son technicien. C'est un jour de relâche pour lui, après un week-end d'astreinte à crapahuter dans la forêt suite à la découverte du corps d'un randonneur à moitié décomposé. Pour se réconforter, ils ne quitteront pas la chambre avec vue. Karine aime être un antidote à la criminalité. Clémence est la première à entendre la cloche. Passé l'instant d'effroi, elle rassemble ses esprits et court en direction de la route en appelant Rémi avec la toute-puissance dont sa cage thoracique est capable. Elle enfourche son vélo et se dirige vers la parcelle forestière un peu plus loin sur la gauche. La voiture vient de passer devant la maison. Au premier hurlement, Rémi a lâché ses outils et s'est élancé à ses trousses. La gamine pédale comme une folle sans se retourner. Elle entend le moteur du véhicule. Elle sait qu'il la suit, mais rien ne peut lui arriver. Rémi est là. Normalement. Elle se met à douter de leur plan. Et s'il trébuchait, s'il s'empalait sur la branche saillante d'un sapin mort, elle chasse cette pensée en arrivant à l'entrée du chemin, abandonne son vélo, poursuit à pied. La portière a claqué. Il crie « Clémence, ma chérie, attends-moi, je suis venu te chercher !» Elle se retourne pour vérifier qu'il suit, slalome entre les arbres, se concentre sur les repères positionnés au sol jusqu'à la clairière, s'immobilise, puis se retourne. Elle essaie de retrouver son souffle en le voyant arriver. Il s'est arrêté à quelques mètres, avec un sourire satisfait et le sentiment d'avoir gagné sans trop de difficultés. L'homme essaie de l'amadouer, lui affirme qu'il a changé, que plus rien ne sera comme avant, que la prison l'a transformé. Clémence ne l'a pas vu depuis le drame. Il est moins épais que dans ses souvenirs, mais toujours aussi grand et austère. Il porte un bermuda en jean et un t-shirt ordinaire, des baskets de marque aux pieds. Il est rasé de près, les cheveux courts. Il avance maintenant, pas à pas, en lui parlant doucement, en lui tendant la main pour essayer de la rassurer, comme on le ferait avec un animal blessé, avec un regard de prédateur.
« N'approche pas !»
Il s'immobilise, surpris et contrarié. Son regard trahit sa déception et sa colère. En un instant, elle comprend qu'il est resté le même. Il ne changera plus, et elle ne lui pardonnera jamais. Tant qu'il sera vivant, il sera susceptible de la retrouver, de la harceler, de lui faire du mal. Quand Rémi arrive, hors d'haleine, à hauteur de la clairière aménagée, il aperçoit Clémence qui regarde son père. Elle se tient droite et fière. Elle va y arriver. Elle le laisse encore s'approcher, recule d'un pas pour qu'il avance. Le craquement résonne dans la forêt, accompagné du cri. Le piège a fonctionné. Clémence se précipite dans les bras de Rémi qui l'a rejointe. L'homme vocifère, appelle à l'aide, supplie. « Aide-moi, ma chérie, je suis ton père !» Le puits désaffecté est tellement étroit qu'il peut à peine bouger les bras. Large comme il est, il doit se contorsionner. En les soulevant au-dessus de sa tête, il n'est encore qu'à une trentaine de centimètres du bord. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. L'ouvrage est tellement bien réalisé que le cylindre est parfait et ne présente aucune aspérité. Nulle part où poser le bout du pied et prendre appui. Nulle part où agripper les mains. Pas d'envergure pour plier les jambes et se hisser. Il a beau essayer, chaque prise lui échappe inlassablement. Le voilà tout petit, suppliant, ridicule, puni. Clémence et Rémi se sont approchés du trou. Ils le regardent passer de la lamentation à la colère.
« Tirez-moi de là ou je porte plainte !»«
Il faudrait déjà que tu arrives à sortir pour aller voir les gendarmes. Et puis, une plainte pourquoi ? Non-assistance à personne en danger ? Tu l'as aidée, maman, quand elle pissait le sang, après que tu l'avais poignardée? Je l'ai vue mourir, t'as pas bougé.
Qu'est-ce que tu veux?
T'as qu'à réfléchir.
Clémence, boule de rage, saisit la main de Rémi et l'entraîne vers le chemin. Il ne l'a jamais vue aussi déterminée, le regard aiguisé, la poigne ferme, la démarche conquérante.
Je vais lui faire payer, puisqu'il ne comprend pas. On va déjà le laisser réfléchir. On reviendra ce soir. Demain. Tu crois? Au moins.
Alors qu'il s'éloigne, l'homme se met à hurler, à appeler au secours. Il gueule comme un porc. Elle ne peut pas prendre le risque que quelqu'un l'entende en passant à proximité. Elle fait demi-tour, jette son vélo au sol, retourne à l'aplomb du trou. Le père espère. Elle se sera ravisée. Elle aura compris, elle va le sortir de là. « Ah, tu vas me sortir de là !» Puis elle s'éloigne à nouveau, revient avec des branches de sapin récemment coupées pour nettoyer la parcelle. Elle les traîne au sol. Rémi l'aide à les déplacer et à former un dôme au-dessus de la cavité. Les aiguilles sont denses et l'empilement forme un enchevêtrement qui étouffera les cris sans le priver d'oxygène. L'homme l'implore.
« Ne fais pas ça, je t'en supplie, non !»
Toutes ces fois où elle a entendu supplier sa mère, toutes ces fois où il est resté insensible à ses plaintes, toutes ces fois où elle n'a rien pu faire du haut de ces quelques années.
« Maman, regarde, je te venge !»
Rémi la laisse vivre sa colère. Il la comprend tellement. Le processus est nécessaire pour avancer. Elle doit tuer le père. Il s'assurera seulement qu'elle ne le fasse pas au sens propre. Il faut seulement l'effrayer, lui montrer qu'elle est désormais intouchable et lui faire passer l'envie de revenir.
« Tu dis rien à personne ?»
ordonne-t-elle à Rémi en repartant. « Rien. Par contre, je vais déplacer la voiture. Je l'emmène au croisement de la Croix, dans la forêt. C'est assez loin pour qu'on ne vienne pas le chercher ici.
De toute façon, personne ne va s'inquiéter pour lui. »
En redescendant par la forêt, entre les troncs morts et les arbres naissants, Rémi aperçoit la maison au loin, s'assoit un instant pour contempler la vallée qui s'allonge à l'arrière, l'enfilade de villages. Il se sent bien ici, à sa place. Il attend le retour de Christine Metzger pour statuer sur l'avenir, mais il ne rêve que d'une chose, qu'on lui fiche la paix. Une option qui n'est envisageable que s'il ne retourne pas en prison, que si Clémence ne pousse pas la vengeance trop loin, récidive avec préméditation. Il prendrait cher. Il est à mille lieues d'imaginer ce qu'elle va faire le lendemain.